Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
L'agneau de Dieu qui s'est sacrifié pour nous. Merci Jésus. À cause de cela, Seigneur, nous avons le privilège d'être sauvés et un jour d'entrer en ta présence et te contempler dans ta gloire. Ô Dieu, nous sommes sauvés par grâce et par la foi. Grâce parce que nous ne méritons rien, rebelles que nous étions. Par la foi parce que nous croyons dans quelque chose que nous n'avons pas vu. Mais gloire à toi, Seigneur, que nous avons expérimenté. Et cette expérience, Seigneur, nous a ouvert les yeux de la foi. Nous nous réjouissons d'être devant toi, de pouvoir te chanter. Mais Seigneur, nous pensons à ce jour lorsqu'enfin, tous ensemble, devant ton trône, nous chanterons et nous célébrerons ton nom, car nous te verrons tel que tu es. Aide-nous à mieux comprendre qui tu es, Seigneur, à mieux saisir ta personne que pour l'instant nous ne voyons pas avec nos yeux de chair, mais qu'un jour nous verrons dans la gloire, de mieux comprendre ta personne, ton amour, ta grâce, tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ce privilège qu'est le nôtre. Sanctifie ta parole. Au nom de Jésus. Merci. Il y a un passage dans l'Apocalypse, au chapitre 22, verset 4, qui nous dit que nous verrons Dieu. Nous verrons Dieu. Extraordinaire. Voir Dieu. Je sais que, depuis plusieurs dimanches déjà, nous parlons des choses à venir. Et j'essaye de vous donner une perspective de ces choses à venir selon ce que la parole de Dieu nous révèle. Bien souvent, nous lisons la parole de Dieu sans comprendre jusqu'au fond ce que Dieu désire nous dire. Et même si nous les comprenons, nous allons découvrir encore plus tard en relisant d'autres choses. C'est comme un diamant qui a de multiples facettes. Suivant par quel angle on le regarde, on voit un autre éclat. Une autre lumière, telle est la parole de Dieu, d'une richesse merveilleuse, extraordinaire. Mais la Bible nous parle beaucoup de ces temps qui viennent, qui seront éternels, qui sont déjà éternels, mais des temps, si on peut appeler, utiliser ce mot, des temps qui dureront pour l'éternité. Le temps aura disparu comme tel, nous serons rentrés dans l'éternité. Et plus que jamais, nous devons être conscients de ce qui arrive. Bien sûr, il arrive dans le monde des choses terribles, des choses épouvantables. Nous l'apprenons continuellement à travers les médias. Des choses qui nous font pleurer, pleurer à cause de la sottise et de la méchanceté des hommes. Mais tout en même temps, pour nous, nous regardons au-delà de ces choses négatives. Et nous voyons au-delà déjà la gloire à venir, ce que le Seigneur a préparé pour ceux qui se confient à lui. Jésus revient bientôt. Nous ne cessons de le répéter et de le répéter encore. Il revient bientôt. Et beaucoup d'entre nous ici ne verront jamais la mort, car ils seront enlevés parce qu'ils marchaient avec Dieu, comme Enoch marcha avec Dieu pendant plus de 300 ans, et Dieu le prit, parce qu'il marchait avec Dieu. Déjà, dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné une image, déjà à travers Enoch, que ceux qui marcheraient avec lui, lors de son retour, ils seraient pris et enlevés. Il est comme un symbole de cet enlèvement. N'oublions pas que c'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses. Dieu est à la racine de tout ce qui nous entoure, dans la nature, dans l'univers, nous-mêmes, chacun d'entre nous. Nous sommes des créatures de Dieu. Nous ne sommes pas venus dans ce monde comme par hasard, à la suite d'un Big Bang, comme on dit, une grosse explosion, et par hasard, des molécules se sont rassemblées, par hasard. Il n'y a pas de hasard, il y a une planification d'une intelligence supérieure. Alléluia. Oh Jésus, je me demande pourquoi aujourd'hui, si on provoque une grosse explosion, il n'en sort pas des ordinateurs ou des voitures. Les hommes, dans leur science, pensant bien comprendre et interpréter les choses, divaguent, parce qu'ils ont laissé Dieu de côté, ils ne veulent pas de Dieu. N'oublions pas que c'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses, des choses passées, des choses présentes, des choses à venir, et qu'il est le Créateur. Dieu est la source de toute vie. Dieu est la source de toute création. Il est écrit, là, dans le Saint Livre, nous l'avons vu, nous verrons Dieu. Je suis anxieux de voir celui qui a fait toutes choses, qui est à la base de toutes choses. Je suis anxieux de le voir enfin. Il est le planificateur de toutes choses. Il est l'inventeur de toutes choses. Il est l'architecte de toutes choses. Il est le concepteur. Il est l'organisateur. Il est le directeur. Il est le décideur suprême. Et on peut dire encore beaucoup plus que tout cela. Il est l'intelligence suprême dans l'univers. Il y a une intelligence qui a planifié toutes choses, qui a fait ses merveilles dans le monde infiniment petit comme dans le monde dans sa plus grande grandeur. Il est l'intelligence suprême qui a établi les lois de l'univers, les lois de la matière. Les hommes le découvrent, ils s'émerveillent. Ils veulent tout expliquer, mais ils laissent Dieu de côté. Dieu est l'intelligence supérieure de l'univers. Rien n'existe par hasard. Absolument rien. Le hasard, c'est un mot qu'on devrait supprimer dans notre langue, car il n'y a pas de hasard. Tout est ordonné par Dieu. Dieu sait ce qui va se passer. Et surtout, lorsque nous sommes ses enfants, il n'y a pas de hasard pour nous. Dieu conduit et dirige nos vies. Chaque instant, à chaque pas, il prend soin de nous et il nous conduit pas à pas. Il nous conduit pas à pas. Rien n'existe par hasard. Tout est conçu par lui. Tout cela, bien sûr, nous dépasse. Lorsque nous essayons de penser à cela, ceci nous dépasse. Nous sommes dépassés. Dépassés par ce qui se passe autour de nous dans la nature. Comment se fait-il que cette petite graine, qui est restée là depuis si longtemps, puisque même dans les tombeaux des pharaons d'Égypte, dans un climat très sec, on a découvert des grains de blé. On les a fait germer et ils ont poussé après plus de 3000 ans. Qui peut expliquer ça? Quel est l'homme qui peut faire de telles choses? Cet homme n'existe pas. Dieu a mis la vie dans la graine, dans la graine. Et quand l'environnement est propice, cette graine germera. L'homme peut faire beaucoup de choses. Il peut utiliser la plante, il peut manger le fruit, mais il ne peut pas donner la vie à la graine, à plus forte raison, au monde animal et humain. Qui es-tu pour vouloir mépriser Dieu et dire qu'il n'y a pas de Dieu, que c'est le fruit du hasard? Ceci nous dépasse. Nous ne pouvons pas l'expliquer. Nous ne pouvons pas mettre la vie dans une éprouvette. Oh non! Mais qui a vu Dieu? Y a-t-il un homme, un être humain qui ait pu voir Dieu? Personne ne l'a vu. Mais pourtant, nous le voyons quand même dans ses œuvres. Dans ses œuvres, dans cette graine dont je vous ai parlé. Dans ce corps qui grandit dans le sein de sa mère. À partir de deux petites cellules, mâles et femelles, il va sortir un être humain parfait, entier. Un petit bébé, bien petit encore, mais qui a tout le potentiel en lui. Qui fait ça, si ce n'est que le Dieu créateur? Nous le voyons dans cet enfant que des parents tiennent dans leurs bras. Nous voyons Dieu dans sa perfection. Nous le voyons à travers ce fleuve du Congo qui coule et coule et charrie ses eaux, des milliards de tonnes d'eau, et qui ne se vide jamais selon un cycle qu'il a établi. Extraordinaire. Dans Romains 1, 20, il est écrit « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voit. Donc, Dieu se révèle, révèle l'invisible dans le visible. Comment? Par ce qu'il crée. Alléluia. Les perfections invisibles de Dieu se voient. Alléluia. Fort bien depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages nous parlent de Dieu. Autrement dit, quand je regarde la nature, la splendeur de ce qui m'entoure, de ce que Dieu a créé, je vois Dieu dans ses œuvres, le travail de ses mains, de son intelligence. La nature entière nous révèle, elle nous fait voir Dieu. Le naturel et le surnaturel sont à lui et de lui. Quand on parle de surnaturel, il s'agit de surnaturel pour nous, hommes, mais non pas pour Dieu. Pour Dieu, rien n'est surnaturel. Il n'y a rien qui ne puisse faire. C'est à lui. Le monde visible et le monde invisible sont de lui et par lui. Le psaume 62, verset 12 nous dit, « Dieu a parlé une fois. » Deux fois, j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. La force est à Dieu. Quand on parle de la force, on parle de beaucoup de choses, de capacité, d'intelligence. La force de créer, de faire. Une force illimitée. La force est à Dieu. Si nous voyons cela inspiré par l'évidence même de son existence, que nous constatons tous les jours l'existence de Dieu, nous la constatons tous les jours, si du moins nous avons un cœur honnête, il n'est pas difficile de croire que ce Dieu qui a créé toutes choses va créer une nouvelle terre et des nouveaux cieux. C'est ce qu'il nous dit dans sa parole. Il va créer une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Notre Dieu va recycler ce monde qui s'en va à la dérive. Ce Dieu puissant, nous le voyons comme à travers un voile. Nous voyons comme, si vous voulez, une ombre, comme je l'ai déjà dit une fois, une ombre. Nous voyons les lignes, l'ombre nous donne le contour de l'objet, mais non pas le détail. Nous voyons Dieu donc comme une ombre, le contour de sa personne, le contour de ses capacités. Mais non le détail, le jour vient, quand nous verrons sa face, quand nous verrons sa personne, le détail de sa personne. Quelle merveille! Dans Jean, chapitre 14, verset 9, il est dit. Celui qui m'a vu a vu Dieu. C'est Jésus qui dit ça. Celui qui m'a vu a vu Dieu. Quelle vision avons-nous de Dieu, nous? Il y a toutes sortes d'idées dans notre monde quant à Dieu. Dieu, on se le représente de toutes sortes de façons, avec toutes sortes de philosophies, de descriptions. Certains voient Dieu comme étant un être tellement différent, tellement éloigné de la terre. Et ceci se trouve beaucoup dans l'animisme. Dieu est tellement loin qu'il ne peut pas s'occuper de nous. Mais entre Dieu et nous, il y a toutes sortes d'esprits mauvais ou bons. Et nous devons nous accommoder avec ces esprits, les apaiser autant que possible, car il y a plus d'esprits mauvais que de bons esprits. Dans ces grandes forêts de notre Afrique équatoriale, c'est la philosophie qui prévaut. Les esprits, toutes sortes d'esprits, nous devons les disposer en notre faveur. Et pour cela, il faut faire tel acte, telle procédure, telle chose, tel objet va nous favoriser les esprits, telle offrande. Et nous parlons de Dieu, bien sûr, mais quel est ce Dieu? Il y en a d'autres dans le monde qui parlent de Dieu continuellement, mais leur Dieu est un Dieu très mauvais. Il est très mauvais, pourquoi? Parce qu'il démontre ce Dieu. Il veut démontrer ce Dieu comme étant un Dieu qui veut détruire l'autre. Parce que l'autre ne pense pas comme lui. Il veut le détruire par n'importe quelle façon, même en se détruisant lui-même. Quelle est la représentation de Dieu que je me fais moi-même? Comment est-ce que je me le représente? Ceci a une réelle importance. Est-ce que je pense de lui détermine ma vie dans le temps et dans l'éternité? Pour moi, Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de compassion, un Dieu saint, un Dieu qui déteste le péché, qui ne peut pas le voir, un Dieu qui déteste le mélange du profane et du saint. Un Dieu qui s'est exprimé à notre niveau, à travers Jésus-Christ, qui est l'incarnation du Dieu vivant. Puisque nous ne pouvons pas le voir, il a voulu se révéler à nous à travers Jésus-Christ. Beaucoup de personnes se font des caricatures de Dieu. Elles voient en lui le bon Dieu. Dans notre culture occidentale, vous verrez que beaucoup de gens parlent du bon Dieu. Ah, le bon Dieu. Il est tellement bon qu'il ne va jamais punir qui que ce soit. J'appelle pas cela de la bonté. Mais pour beaucoup, c'est le bon Dieu. Avec l'air d'un grand-père. Il a l'aspect d'un grand-père. Avec une longue barbe blanche. Et qui est quelque peu sénile, qui, au besoin, ne regarde pas de trop près les incartades et les abus de ses enfants. Parce qu'il est tellement bon, il ferme les yeux sur les bêtises de ses enfants. Il y a des gens qui ont cette conception de Dieu, attention. Ces gens s'imaginent que d'une manière ou d'une autre, on parviendra à s'arranger. On parviendra à s'arranger avec lui à la fin de la vie. Parce que c'est le bon Dieu. Il aura pitié de nous. Quelle est cette doctrine de l'enfer et de la punition éternelle? Non, ce sont les retardés du Moyen Âge qui croient à une telle doctrine. Dieu est bon. Oui, mais Dieu est juste aussi. Dieu parle. Dieu avertit, et quand on rejette et qu'on n'accepte pas de se repentir, que reste-t-il? Il y a aussi d'autres personnes qui voient en lui le juge. un juge suprême et sévère, un juge exigeant, inflexible, inspirant la crainte et la peur. Ce Dieu-là, on ne peut véritablement l'aimer. Il est trop dur. Il est très important que nous connaissions Dieu et que nous le voyons tel qu'il est véritablement. Quelle image avons-nous de Dieu, nous-mêmes, dans notre cœur, dans nos familles, dans notre culture, de là où nous sommes? Ne devons-nous pas réformer quelque peu notre pensée vis-à-vis de ce Dieu? Il est important que nous le connaissions, ce Dieu-là, tel qu'il est, véritablement. Mais est-ce possible pour nous, humains, de connaître ce Dieu? Il y a une chose que nous devons savoir. Nous ne pouvons pas connaître Dieu que s'il se révèle à nous. Nous pouvons avoir toutes sortes d'images fausses, de clichés faux de ce Dieu. Mais le connaître véritablement, il faut avoir une révélation de sa personne dans notre cœur. Et il n'est pas dans le pouvoir de l'homme de le trouver et de le connaître par lui-même. Il faut une intervention de Dieu pour qu'il se fasse connaître à l'individu. Dieu s'est révélé dans sa parole. La Bible est la parole de Dieu. Et il se révèle par les Écritures. Ensuite, il se révèle de façon puissante à travers son Fils, Jésus-Christ. Jésus est l'incarnation de Dieu en chair. Il est né d'une femme par l'intervention du Saint-Esprit qui a mis au monde un petit bébé tel que nous naissons nous-mêmes, et il a grandi en allant à travers tout le processus humain de la croissance. Jésus, il a dû apprendre comme nous avons dû apprendre. Voilà. Et c'est ainsi que, à travers Jésus, venu à notre échelle, nous avons connu Dieu. Dieu dans son amour, Dieu dans sa patience, Dieu dans son endurance, Dieu dans son support. Nous l'avons connu, nous avons connu le caractère de Dieu à travers Jésus-Christ. Et la personne de Jésus, manifestée ici-bas sur cette terre, nous a fait voir qui était Dieu, le Dieu d'amour et de compassion. Nous connaissions le Dieu saint, qui ne supporte pas le péché, qui est révélé dans l'Ancien Testament et à travers la loi de Moïse, qui nous révèle notre état de péché et notre impossibilité d'être sauvés par nous-mêmes. Cet aspect de Dieu était nécessaire. Mais cet autre aspect est venu par Jésus-Christ, le pardon des péchés, quelle que soit l'offense de celui qui se repent avec sincérité. Dans Jean 1, 18, il est dit, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Dieu le Fils unique. Il n'y en a point d'autre. Il n'y a que lui. D'accord? Mais unique aussi, dans son action, unique dans son amour, unique dans son sacrifice, unique dans sa vie. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Il est celui qui a fait connaître le Père. Un jour, Philippe, l'un des disciples de Jésus, dans Jean 14, 8 à 9, disait, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui répondit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, Es-tu ne m'as connu, Père? Es-tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Autrement dit, Jésus, c'est le Père, c'est Jésus. Jésus est Dieu manifesté en chair. Il est le Dieu que nous pouvons toucher, que nous pouvons voir, nous, en tant qu'hommes et femmes. Le Dieu à notre niveau. Quelle merveille! Et ce Dieu-là, nous lui avons craché dessus. Ce Dieu-là, nous l'avons rejeté. Ce Dieu-là a été cloué sur un bois. Et même ses disciples n'ont pas compris, charnels qu'ils étaient, jusqu'au jour où ils sont nés de nouveau. Mais sa mission était d'écraser la tête du serpent. Il l'a faite à Golgotha, en notre faveur. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut écrire ceci dans Colossiens chapitre 2, verset 9. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Autrement dit, en Jésus, il y a toute la plénitude de la divinité. Extraordinaire. Voir sa face, le contempler, voir Dieu, est-ce une chose possible? Là, nous parlons de notre relation intime, d'une relation tangible avec Dieu, dans toute la richesse de la vie qu'il est et qu'il communique. Dieu, c'est la vie. Voir Dieu, c'est vivre pour toujours. Voir Dieu, c'est être de sa famille. Dans le psaume 63, 1, nous lisons, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Je te cherche, ô Dieu. Tu es mon Dieu. Je te désire. » C'est ce que disait le psalmiste. Je ne suis satisfait qu'en toi. Ici-bas, sur cette terre, rien ne peut me satisfaire. Tout est passager. Il me faut quelque chose de différent. C'est ce que disait David. Je soupire après toi. Je désire avoir communion avec toi, ô Dieu. Quoique je sois un être de chair, tiré de la poussière, Seigneur, j'ai en moi ton image. Chacun d'entre nous, quoique nous soyons tirés de la poussière, peut-être même rebelles, pécheurs, nous avons une empreinte de Dieu en nous. Il a fait l'homme à son image. Qui que nous soyons. Et c'est la raison pour laquelle Satan nous déteste. Même celui qui le sert, Satan le déteste. Tout ce qu'il veut, c'est de le détruire. Quoique je sois un être de chair, un être de poussière, j'ai en moi l'image de ce Dieu créateur. Et l'esprit qui est en moi, qui est un esprit éternel, ne peut être satisfait qu'en toi, ô Dieu. Tu as mis en moi un esprit éternel. Où vais-je passer cette éternité? Dans la vie éternelle ou la perdition éternelle? J'ai une parcelle de l'éternité en moi. Chacun d'entre vous, d'entre nous, nous avons une parcelle de l'éternité en nous. Où allons-nous passer cette éternité? Avec Dieu ou sans Dieu? Même ce corps, tiré de la poussière, languit après toi, ô Dieu. Tout ce qui est autour de moi, les œuvres des hommes, Ce qui sort de leurs mains n'a aucun attrait pour moi, aucun intérêt pour moi. Tout est sec, tout est mort. Quand tu n'es pas là, sans toi, il n'y a pas de vie. C'est ce que nous dit le psalmiste, le psaume 73, 25, il est dit, « Qui d'autre ai-je au ciel en dehors de toi ? Je n'ai aucun plaisir sur la terre. » Nous allons nous apercevoir que bien trop souvent, nous avons couru après les choses de la terre en vain. Même, combien d'entre nous, nous avons intenté des procès de tout genre. Pourquoi ? Pour de la poussière. Frères, sœurs, pourquoi se battre pour des choses de la terre qui passent ? Quel que soit le nombre de nos années, un jour, nous partirons de cette terre. Nous ne sommes que des passagers. Où mettons-nous notre affection ? Notre affection est dans une voiture, notre affection est dans une maison, notre affection est dans un compte en banque quelque part, notre cœur est dans notre commerce, est dans nos affaires, notre cœur est dans la politique ou le parti auquel nous appartenons. Tout cela n'est que poussière et passera. Tout. Ces choses de la terre ne peuvent nous satisfaire. C'est la raison pour laquelle tant d'hommes dans le monde amassent et ont amassé des richesses incroyables. Mais ce n'est pas pour cela qu'ils sont satisfaits. Non, car tout cela n'est que poussière. Notre homme naturel désire beaucoup de choses. Il est gourmand, notre homme naturel. Et jamais il n'est satisfait par les choses de la terre. Car seul Dieu peut satisfaire. L'homme n'a pas été créé seulement pour le temps, mais il a été créé pour l'éternité. Et seulement l'éternité peut satisfaire l'homme. C'est la raison pour laquelle jamais un homme n'est satisfait. Il amasse, mais jamais il n'en a assez. Il en faut encore, quitte à opprimer son prochain, pour prendre ce qui est à lui et se l'attribuer, alors qu'il en a déjà beaucoup. Il y a un vide, il y a un besoin, et ce besoin, ce vide, il veut le remplir avec les choses de la terre, sans jamais arriver à le remplir. C'est comme un trou sans fond. Il y met, et il y met encore, et ce n'est jamais rempli. Pourquoi ? Parce que cet homme a besoin de Dieu. Lui seul peut satisfaire son cœur. L'éternité heureuse et qui satisfait ne peut être qu'en Dieu seul. Sa présence satisfait. Son absence apporte la soif et la sécheresse. Voilà pourquoi beaucoup sont dans la sécheresse morale, sécheresse spirituelle. Ils ont soif. Regardez les courir après de l'argent. Ils ont de l'argent, mais ils en veulent encore. Ils ont soif. Regardez les courir après des hommes ou des femmes pour vivre avec. Ils ont soif. Ils ne sont jamais satisfaits. Ils attrapent toutes sortes de maladies. Ils se détruisent eux-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont soif. Ils ne savent pas de quoi. Ils pensent que les choses de ce monde vont les satisfaire. Aucune chose de ce monde ne peut satisfaire nos besoins. Nous avons des besoins spirituels, le besoin de notre âme, et nous voulons calmer ces besoins par les choses de la terre. Non, notre âme crie après son Créateur. Et combien d'hommes et de femmes se tournent vers les puissances occultes et les manipulations occultes, pensant que là, ils pourront trouver une satisfaction. Or, cela devient pire. Ils deviennent esclaves. Esclaves de celui qui ne cherche qu'à les détruire. Là, les détruire éternellement. L'absence de Dieu dans une vie amène la soif et la sécheresse. On cherche à boire, à se satisfaire. Et ce sont que des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Dans Psaume 42, versets 2 à 3, il est dit, « Comme une biche soupire après le courant des eaux, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face, devant la face de Dieu ? Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ? » Nous voyons la soif intense de l'homme qui veut voir Dieu. Allez-vous voir Dieu un jour ? Par la foi, nous le voyons déjà. Oui, parce que nous savons que nous nous adressons non pas à une idole, non pas à une image faite de main d'homme, non pas à une icône quelconque, non, mais nous nous adressons à celui qui nous a créés. Et quand nous sommes en communion avec lui par la prière, nous le sentons déjà et notre âme est satisfaite. Nous désirons avoir une plus entière et complète communion avec lui. Et nous pensons à lui, nous lisons sa parole, nous lui parlons et il nous abreuve, et il nous donne et il nous satisfait. Il pourvoira nos besoins temporels, oui, parce qu'il ne veut pas nous voir nus. Il ne veut pas nous voir dans la pauvreté et dans le malheur, non. Mais les choses de la terre passeront de toute façon. Seigneur, ma priorité est ton royaume. Et avec toi, je veux être en communion. Comme une biche soupire après le courant des eaux, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. J'ai soif de toi, mon âme a soif du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ? Notre désir languissant pour le ciel est un désir pour Dieu, car tout est en lui. Un désir qui n'est pas seulement dans notre homme intérieur, mais qui est aussi dans notre corps. Dans le psaume 63, verset 2, il est dit, « Ô Dieu, tu es Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. » Ce corps mortel a soif de Dieu. Ce corps mortel veut exprimer cette soif à travers les cantiques, les prières, la louange, l'adoration. Et ce corps mortel a besoin d'être vivifié par cette communion avec le Dieu puissant. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Nous languissons, nous désirons quitter cette terre où il y a tant de malheurs, tant de guerres, tant de larmes, tant de souffrances. Aujourd'hui, plus que jamais, nous ne cessons d'être harcelés par des nouvelles négatives, des tueries, des choses terribles qui se passent à travers le monde, en plus des cataclysmes qui secouent notre planète. Il nous faut une nouvelle résidence. Il nous faut une nouvelle place. Et il a préparé cette place. Tout plaisir, joie, même spirituels, ne sont rien sans la présence de Dieu. Il est la source de toute joie, la source de toute paix, d'une paix réelle et durable. Il est la source du bonheur qui ne sera jamais assombri. Il est la source de toute satisfaction. Le don le plus grand qui nous est fait est sa personne. Et sa personne s'est manifestée à notre niveau en Jésus-Christ. Vous voyez Jésus, vous voyez Dieu à notre niveau. Lisez la parole de Dieu et vous verrez Jésus. Vous verrez son caractère, sa personne, son travail, son endurance. Vous connaîtrez Jésus. Si vous connaissez Jésus, vous connaîtrez Dieu. Notre désir le plus cher, c'est de le connaître, voir sa face. Cela devrait être notre aspiration et le désir même le plus grand, le plus vif de notre être. Mais comment voir sa face? Nous ne pouvons la voir et vivre. Dieu est saint et l'homme est pécheur. Même le pécheur pardonné, il ne peut voir Dieu et vivre. Du temps de Moïse, le souverain sacrificateur ne pouvait entrer dans le lieu très saint qu'une fois par an. Et quand il rentrait une fois l'an, il devait apporter le sang d'une victime pour son propre péché et pour le péché du peuple. On dit même qu'à ce moment-là, on attachait une corde à son pied. Parce que peut-être, on ne sait jamais, cet homme a violé quelques commandements, cet homme n'a pas fait ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et quand il va se présenter dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu, là où Dieu réside parmi son peuple, il risque d'être frappé. Si Dieu le frappait, alors qui pourrait aller chercher son corps? Oui, le Dieu terrible, c'est vrai, qui ne peut voir le péché, un aspect de sa personne que nous ne devons pas ignorer. Dans 2 Samuel 6, versets 6 à 7, là, il nous est raconté l'histoire de Ouza, qui a été frappé par Dieu. David avait décidé de ramener l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Et pour cela, il avait construit un char neuf avec des bœufs. Ils ont organisé un grand cortège avec des réjouissances, de la musique, des tambourins, des danses. Et ils s'en allaient sur la route avec les bœufs qui tiraient le char. Et il est écrit là, au verset 6 du chapitre 6 de 2 Samuel, « Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Nacon, Ouza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs avaient glissé. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Ouza et Dieu le frappa là à cause de ce sacrilège. Ouza mourut là près de l'arche de Dieu. » L'arche de l'Alliance a été posée sur un char neuf tiré par des bœufs. Dieu est fâché. D'abord, Dieu n'a pas besoin de l'aide des hommes. Il peut se suffire à lui-même, premièrement. Deuxièmement, Dieu n'a jamais dit que l'arche devait être portée sur un char. Non, l'arche devait être portée par les Lévites, choisis par Dieu, qui devaient le porter. Il y avait des barres qui étaient passées dans l'arche et les Lévites devaient la porter. Et s'ils avaient fait ce que Dieu avait demandé, avait donné l'ordre de faire, jamais Ouza ne serait mort. Voilà. L'homme ne peut modifier ce que Dieu a commandé. Il ne peut modifier ce que Dieu a commandé, changer, améliorer selon son idée ce que Dieu a commandé de faire. Et combien de fois, nous-mêmes, dans notre société dite chrétienne, nous modifions la parole de Dieu selon ce que nous pensons bien de faire. Croyez-vous que cela plaît à Dieu? Jamais. Nous ajoutons la parole de Dieu, nous retranchons la parole de Dieu, nous fabriquons des rites que Dieu n'a jamais commandé de faire, et nous pensons honorer Dieu de cette façon, de façon mécanique, mais Dieu n'y est pas. Croyez-moi, mes amis, on ne peut pas se moquer de Dieu. Nous ne sommes pas supérieurs à lui s'il a dit de porter l'arche avec les Lévites, désigné par Dieu pour faire ce travail, c'est ce qui doit être fait. Quand Moïse demande à Dieu dans Exode 33, versets 18 à 19. Moïse demande à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel lui répondit, « Je ferai passer devant ta face toute ma bonté. » Au verset 20 jusqu'au 23, il est dit, « Il ajouta, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un endroit de près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Oh, merci Seigneur. Jésus-Christ, le rocher des âges, qui a été brisé pour nous. En lui, nous trouvons une place pour nous réfugier, couvert par ta main. Seigneur, en lui et par lui, nous te voyons comme de derrière. Nous ne voyons pas ta face, mais nous te voyons comme de derrière. Et quelle gloire ne voyons-nous pas à travers Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a pris un corps tel que le nôtre. Merci pour ce que tu fais pour nous. Je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. En Jésus-Christ, nous voyons Dieu par derrière. Alléluia. Et déjà, ce que nous voyons, n'est-ce pas merveilleux? Mais aucun homme ne peut voir Dieu et vivre. Moïse vit Dieu, mais pas face à face. Dans 1 Timothée 1, 6, 16, il nous est dit que le roi des rois, le seigneur des seigneurs, seul possède l'immortalité et qu'il habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. Mais dans Apocalypse 22, 4, il nous est dit que nous verrons Dieu face à face. Il faut donc que quelque chose se passe, quelque chose de radical puisse être fait. Il faut donc une transformation complète pour que nous puissions le voir. Il faut que le plus grand homme, l'homme le plus saint, l'homme le plus juste, subisse une transformation radicale. Cette transformation commence d'abord par la nouvelle naissance et s'achève par la résurrection, lorsqu'un corps nouveau nous sera donné, et que nous aurons alors sa nature physique. Dans Hébreux 12, 14, il est dit que nous marchons dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Né de nouveau, première étape, marcher dans la sanctification. Sanctification avec persévérance, deuxième étape. La résurrection avec un corps nouveau, troisième étape. Alors, nous pourrons voir Dieu. Il faut être rendu juste par Christ, purifié de nos péchés. Alors, nous pourrons voir Dieu dans un corps nouveau, transformé, ayant fini avec le corps de la chair. Oh, la joie! Le bonheur de voir enfin celui duquel nous avons tant parlé, de voir enfin celui que nous avons tant prié, espéré, le Dieu puissant, le Dieu d'amour. Là, nous avons la réalisation entière, le miracle, l'apothéose, si je puis dire, de la rédemption rachetés. Nous avons été rachetés. Autrement dit, achetés une deuxième fois, re-achetés par le sacrifice de Jésus-Christ. Nous qui avions été, pour ainsi dire, volés par Satan, induits au péché, à la tentation, tombés dans le piège de l'ennemi. Satan avait usurpé l'autorité de Dieu sur cette terre, mais Dieu nous a sauvés, il nous a rachetés. Et là, vous avez le miracle de la rédemption. Être reçu en la présence même de notre Sauveur Jésus et voir sa face, son regard d'amour, sa beauté qui surpasse toute beauté humaine, sa gloire, la gloire de sa personne, sa voix, tout ce qui est lui et que nous ne pouvons imaginer à notre niveau. Dans Hébreux 10, 19, il est dit, « Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. » Un libre accès, non pas comme dans l'ancienne alliance, un accès réservé à une seule personne, une fois par an, avec 1000 précautions et le sang de victimes. Non, à cause de Christ, nous avons un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus-Christ. Dans Hébreux 4, 16, il est dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. » Nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Le sang de Jésus nous a acquis un accès libre de toute barrière au trône du Dieu puissant, dans son lieu saint. Déjà maintenant, il nous invite à venir à lui par la foi, dans la prière, en sa présence. Dans l'éternité, nous ressuscités, parce que sauvés par grâce et par la foi, il ne va pas seulement nous permettre d'entrer en sa présence, mais il va nous recevoir afin que nous vivions en sa présence pour l'éternité sur une nouvelle terre et des nouveaux cieux qui seront alors unis ensemble. Nous sommes donc dans le temps. Et chacun de nous, nous devons nous préparer pour l'éternité et voir sa face. Nous sommes dans le temps, mais ce temps va finir. Il y a un point final au temps. Nous rentrerons dans l'éternité. Et si nous avons choisi de nous repentir pour marcher par grâce et par la foi, en obéissance à sa parole, alors nous rentrerons dans l'éternité avec un nouveau corps pour être avec lui sur la nouvelle terre. Romains 8, 18 nous dit, il n'y a pas de communion, comme une mesure, entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il n'y a pas de commune mesure. Les souffrances du temps présent ne sont pas comparées avec la gloire à venir. Sa face, c'est la vie. Sa face, c'est la sainteté. C'est l'éternité. C'est le bien-être. C'est la joie parfaite. C'est le bonheur qui n'aura jamais de fin. Le psaume 105, verset 4 nous dit, « Recherchez l'Éternel et sa face. Cherchez continuellement sa face. » Ésaïe 55, 6, verset 6 nous dit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. » Invoquez-le tandis qu'il est proche. Et encore Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Cherchez-vous le Seigneur? Avez-vous soif? Avons-nous soif de voir sa face? Recherchez l'Éternel et sa face. Cherchez continuellement sa face. Chercher sa face, c'est de chercher avoir communion avec lui. c'est de le prier, c'est de lire sa parole, c'est d'écouter la prédication de sa parole, la communion fraternelle. Toutes ces choses sont nécessaires dans notre vie chrétienne. Frères et sœurs, recherchez le Seigneur. Recherchez sa face. Connaître Dieu, est-ce que vous le connaissez? Baissons la tête. À quoi ressemble le Dieu que vous pensez être le vôtre? Est-il le bon Dieu qui passe tous les caprices et les sottises de ses enfants? Ou est-il le Dieu juge qu'il est impossible d'aimer? Quel est ce Dieu que vous servez? Peut-être, ce n'est même pas celui dont nous parle la parole de Dieu. C'est un Dieu qu'on vous a enseigné dans votre culture. Un Dieu fabriqué par les hommes selon la pensée humaine. Quel est ce Dieu dans lequel vous croyez? Mes amis, la parole de Dieu nous exhorte aujourd'hui à chercher sa face. Avez-vous déjà cherché sa face? Désirez-vous chercher sa face? Peut-être vous l'avez fait quelque peu à cause d'une influence religieuse dite chrétienne, mais vous n'avez pas persévéré dans la recherche de sa face. Voulez-vous rechercher sa face? Si tel est votre désir de renouveler cette flamme de votre cœur pour le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection, pour chercher sa face, si vous désirez revenir à lui pour le chercher de tout votre cœur, levez-vous maintenant là où vous êtes pour exprimer ce désir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Cherchez Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ô Seigneur, merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Le chercher. Chercher Dieu. Chercher sa face. Connaître Dieu, le Créateur de toutes choses. Cette intelligence supérieure. Cet organisateur, celui qui tient le monde dans sa main, celui qui a tout le secret de toutes les sciences, quelles qu'elles soient, qui vous aime et qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Le chercher, c'est ça qu'il vous demande. Vous devez faire quelque chose. Oui, il a beaucoup fait pour vous, mais vous devez aussi faire quelque chose pour lui. Et ce quelque chose que vous devez faire, c'est de le chercher, de le prier, de lire sa parole. Ô Jésus, je t'apporte ces hommes et ces femmes, et je te demande dans ta grande grâce, dans ta grande miséricorde, de te révéler à eux. Seigneur, qu'ils te donnent leur vie, leur cœur, et qu'ils te cherchent. Seigneur, qu'ils te cherchent avec zèle, qu'ils cherchent ta face. Pour te connaître tel que tu es. Car tu as mis ton empreinte en eux. Ils ont ton image en eux. Mais cette image a été tellement déformée par le péché. Ô Seigneur, renouvelle ton image dans leur cœur. Bénis-les, Seigneur, et qu'ils marchent sur le chemin de la vérité. Merci, Père, au nom de Jésus. Donne-leur le courage d'aller de l'avant. D'aller de l'avant, Seigneur. Le courage, Seigneur mon Dieu, de mettre leur vie en règle. Au nom de Jésus, merci. Et nous te demandons, Seigneur, veuille bénir les dîmes et les offrandes qui te sont présentées maintenant. Pour beaucoup, Seigneur, d'entre nous ici, ils donnent de leurs besoins, de ce qu'ils ont besoin. Ce n'est pas leur surplus. Mais permets que rien ne leur manque, je t'en prie. Pourvois largement à tous leurs besoins. Besoins physiques, besoins spirituels. Et qu'ils grandissent devant toi. Et que tu puisses les utiliser pour ta gloire. Merci, Jésus.
Tu es tout puissant quand mon cœur considère. Alléluia. Tu es tout puissant.
Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir,
le ciel d'azur,
les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir,
tout mon être,
alors se lève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand,
que tout mon être,
de tout mon être,
alors se lève un chant,
Dieu tout-puissant, que tu es grand.
Mais
quand je songe au sublime mystère,
qu'un Dieu si grand.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org.